Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Sarala. Bonjour Clémentine.
Salut Marie.
Donc Clémentine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais tu es maman d'une petite fille, nous expliquer tout ça.
Alors je suis journaliste, c'est ma première définition, mais je suis en train de changer de voix, donc je peux me définir autrement. Mais j'ai bientôt 31 ans. J'habite à Bordeaux et j'ai eu une petite fille en septembre 2017 qui s'appelle Ella. Mmh. Et sans que je m'y attende, mais comme beaucoup m'avaient prévenu, ça a complètement bouleversé ma vie et changé tout ce en quoi je croyais et comment je me percevais. Donc ça a été une expérience déterminante dans ma vie. Et j'ai eu 30 ans aussi, peut-être cette année-là, donc ça faisait beaucoup d'un coup.
Bah écoute, justement, on va en parler. Donc déjà, en fait, comment tu as appréhendé ton rôle de maman? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est passé? Voilà, tu peux nous expliquer.
Alors, c'est assez paradoxal parce que moi, j'ai eu mon BAFA à 17 ans, j'ai toujours aimé les enfants. Voilà, tous mes jobs d'été, c'était avec des enfants. Je passais 2 mois de vacances, j'étais pas dans les bars ou dans les restos comme mes copines sur la côte. C'était mon choix. Moi, je préfère aller en colo parce que j'aimais les enfants. Et en même temps, j'ai toujours dit à mes copines, moi, avant 35 ans, jamais j'aurai d'enfants. J'ai beaucoup d'ambition, sans que ce soit péjoratif. Je pense que j'avais déjà compris que c'était compliqué de mener 2 carrières en même temps, d'arriver à trouver un équilibre. Donc j'avais compris que si je voulais vraiment être épanouie dans ma carrière, il fallait un peu que j'attende pour faire des enfants. Ouais. Et puis en fait, tu vois, j'ai eu un enfant à 29 ans, donc rien à voir. Ouais. Mon schéma familial, moi, ma mère, elle m'a eu à 34 ans, je suis l'aînée, donc...
Ah ouais.
Alors, pour l'époque, c'était tard.
Pour l'époque,
c'était tard. Ouais, donc j'avais pas du tout cette pression, cette vision de moi de me dire, dans la vingtaine, il faut que je sois maman.
D'accord.
Et puis en fait, on prévoit pas dans la vie.
Ouais, enfin, c'était voulu ou c'est arrivé comme ça?
Non, c'était très voulu, c'était prévu. Ouais. C'était même, j'ai un métier très particulier parce que je suis journaliste en sport, donc j'ai pas honte de le dire, ma fille elle le saura, qu'on avait prévu pour que j'accouche en septembre parce que ça me permettait de terminer la saison et de reprendre un moment où c'était pas trop compliqué, je ratais pas trop de choses. Bon, voilà, ça c'était avant que j'ai un enfant, j'avais prévu dans ce.
C'est super en plus.
J'avais planifié, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a
que le timing soit respecté, quoi.
On a eu beaucoup de chance parce que ça aussi, moi je me suis dit, je veux que ce soit là, ça sera à ce moment là c'était le cas, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc on avait un peu envisagé ça comme ça. Après, moi j'ai toujours dit que je voulais les enfants tard. Mm-hmm. J'ai toujours aimé les enfants, mais je me suis jamais imaginé maman, paradoxalement.
D'accord, donc il n'y avait pas de projection.
Non, je ne me suis jamais dit, moi, je suis quelqu'un qui serait une maman, c'est sûr. Pourtant, je savais que j'avais une fibre très particulière avec les enfants et que j'ai vraiment beaucoup de patience. J'adore ça, les enfants, ça me fascine, ça m'a toujours vraiment émerveillée. Donc, c'était bizarre de pas avoir non plus cette envie. Je sais que je connais des gens qui me disent, moi, depuis petite, je voulais être maman. Pour moi, c'était pas ça.
Ouais, toi, t'imaginais...
J'avais pas de pression particulière.
Voilà. Bah, ça, c'est super. En fait, à la limite, comme ça, c'est la découverte.
Exactement.
Et alors, du coup, comment s'est déroulée ta grossesse? Comment ça s'est passé? Parce que du coup, t'avais quand même un bon rythme, j'imagine.
Ouais, alors c'était très dur les 3 premiers mois. Pour ceux qui ont déjà eu un enfant, savent que la plupart du temps, en fait, c'est quasiment les plus durs.
Ouais.
Tu le dis à personne et t'es très fatiguée. Moi, ça correspondait avec la période du tournoi Destination, qui est une période très, très chargée dans mon métier. Ouais. On travaille 6 jours sur 7, on est en déplacement, j'ai fait 7 pays en même temps, c'était horrible. À 19h, j'avais envie d'aller me coucher. Et moi, les 3 premiers mois, j'étais vraiment dans une phase de dépression.
Ah ouais.
Je le dis parce que quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit « Ah, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, j'avais oublié, mais moi aussi, les 3 premiers mois, c'était très, très dur. » Moi, j'avais la nausée toute la journée. Je vous sais pas, mais tout me dégoûtait. Et alors, en étant à Paris avec les odeurs et tout, c'était la pollution. Je supportais plus rien, en fait.
Ouais.
Et donc, c'était très, très dur. Et tu sais, c'est le moment où tu sens pas ton bébé.
Ouais.
Tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Tes pantalons commencent à te faire un peu mal au bas du ventre. C'est très désagréable. T'es limite... comme un peu ballonné, enfin bon, c'était pas du tout la période la plus agréable. Et puis on est parti en vacances à Bali dans mon 4e mois, et là c'est bon, ça a été j'étais en maillot de bain, j'avais pas de choses qui compressaient mon corps, c'était génial. Et en fait voilà, comme on m'avait dit, tu verras, à partir du 2e trimestre c'est plus simple, enfin on est plus épanoui. C'est vrai que c'était beaucoup plus agréable. Et je voulais aussi, dans ma planification, être enceinte l'été.
Ouais.
Je sais que pour plein de gens, ça paraît complètement fou, parce que avoir un gros ventre, et parfois on fait de la rétention d'eau. Moi, j'ai pas eu ça, donc moi j'étais en maillot de bain, en tongs, j'allais pas me faire chier comment je m'habille, qu'est-ce que je dois
mettre. Ouais, c'est sûr.
J'étais à la plage tout le temps, ou à la piscine, enfin je pouvais être dans l'eau. Moi j'ai trop kiffé, c'était trop bien, mon dernier trimestre. J'ai accouché fin septembre, j'avoue, à Bordeaux, le dernier mois, il y a eu des 40 degrés, j'avoue, j'ai souffert. Mais bon, je me dis, en fait, tu souffres quoi qu'il arrive, parce que
c'est sûr.
Parce que tu te réveilles tout le temps, t'as envie de faire pipi, voilà.
L'hiver, t'as froid.
S'habiller, ça doit être compliqué, donc non, après, ma fin de grossesse, comparé à mes 3 premiers mois, où je me suis dit, mais si c'est comme ça, 9 mois, je vais jamais y arriver. Moi je croyais que c'était génial, on te vend quand même beaucoup le truc, t'es épanouie machin,
c'est vrai.
Les 3 premiers mois, je disais, mais il y a eu un mensonge dans la publicité. Et puis en fait non, en fait je suis d'accord, moi personnellement en tout cas c'était génial, j'avais des cheveux mais magnifiques, j'avais une peau mais je regrette cette période, tu vois, juste pour ça.
D'accord. Et ton accouchement, ça s'est passé comment, en fait? Ça a été, c'est venu naturellement, comment ça s'est passé?
Alors, moi, j'avais pas la tocophobie, j'ai appris plein de mots, donc c'est quand on a peur de l'accouchement.
Ah, je connaissais pas ce mot, incroyable.
La tocophobie.
Tocophobie.
J'avais pas du tout peur que mon corps change et de l'accouchement. J'étais très renseignée. En fait, donc j'ai vécu aux États-Unis il y a 13 ans, et ils sont beaucoup plus en avance que nous sur l'accouchement, la maternité. Voilà, je connaissais plein de termes. Dans ma famille américaine, les femmes, elles ont soit accouché à la maison, soit avec des doulas, soit dans l'eau. J'étais là, j'ai vu, j'ai compris ce que c'était.
Ouais.
Moi, toutes mes copines, personne ne sait ce que c'est une doula. Les accompagnantes dans la maternité. Bon, on peut aussi avoir les assistantes périnatales. Mais... Donc, j'avais un projet de naissance. Moi, je voulais accoucher dans l'eau. Je voulais quelque chose qui était beaucoup plus naturel que juste être allongée, péridurale. Moi, je suis née par césarienne d'urgence. Donc, je sais aussi qu'il y avait des risques, puisque c'est comme ça que je suis née. Mais ça a aussi induit beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les bébés nés par césarienne, ils sont pas exposés aux microbes de la mère. Donc, moi, je suis intolérante au lactose, au gluten. J'ai des problèmes. Ouais. Voilà. Et ça, on le sait aujourd'hui, que la flore intestinale, c'est très important que le bébé passe par voie vaginale. Donc, je voulais quand même que ce soit un peu dans ce projet-là. Je voulais éviter au maximum la péridurale.
Ouais.
Je pense que j'étais pas assez décidée dans mon choix pour le faire.
Ouais.
Parce que j'ai choisi une maternité où on pouvait gérer toutes ces contractions dans l'eau.
Mm-hmm.
Ce qui était primordial pour moi. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai pu le faire, et ça a tout changé. Mais après, voilà, j'ai au bout de 8 heures de souffrance, j'ai dit, bon, je veux bien la péridurale. Et là, j'ai eu affaire à un gros connard, je le dis, même si ça ne devrait pas employer ce mot dans un podcast, mais j'ai fait face à la violence obstétricale. Et du beau mansplaining, du beau patriarcat. C'est l'anesthésiste j'avais des contractions qui s'enchaînait là, il y avait pas, on te parle de vague dans les contractions, moi j'avais plus la vague, je respirais plus, j'avais plus à respirer, j'avais trouvé plus le point pour le faire. Et il était 1h du mat, on a dû le réveiller dans sa garde, le pauvre, alors qu'il est surfacturé quand même.
Oui, et puis bon, c'est son métier.
C'est son métier de soulager les gens, et donc quand on te met dans une position pour la péridurale, c'est pas du tout une position physiologique pour accoucher, donc pour gérer ta contraction.
Ouais.
Et moi, j'étais en plein dans les contractions, je hurlais en fait.
Ouais.
Mais bon, c'est normal.
Oui, et puis chacune
ça fait partie du processus. Et lui, il m'a quand même senti, c'est insupportable, mademoiselle, il faut arrêter de crier, parce que bon, moi, ça me gave. j'ai réussi à me concentrer 2 secondes, j'ai pris ma respiration, je me suis retournée, j'ai dit pardon.
Ouais.
Il y avait mon mec qui était là. Mon mec, il a pas compris. Il a dit, mais il pensait que c'était une blague. Je lui dis, mais vous êtes une femme, vous avez déjà eu des contractions? Je lui dis, ouais. Non, alors vous taisez. Il dit, oh non, mais c'est bon, on peut plus faire son boulot. Parce qu'en fait, il m'avait raté 3 fois, donc il me faisait encore plus mal.
Oh là là, la galère.
Un enfer, un enfer. Et là, mais je me suis retenue de pas. Mais franchement, et mon mec, j'ai cru qu'il allait s'en prendre une. Mais il est fou, le mec. Il était fou. J'ai rien dit parce qu'à un moment, tu veux quand même ta péridurale, t'es en souffrance.
Ouais, et puis bon, t'es quand même en train de souffrir.
Et non, mais t'es là, c'est pas possible qu'un mec te dise, c'est pas possible.
Mais t'es dans une situation. En fait, ce qui est terrible dans ce genre de cas, c'est que t'es dans une situation de vulnérabilité totale. Donc, de toute façon.
Et j'ai lu tellement de choses aujourd'hui sur l'accouchement, sur ce qu'on doit laisser faire aux femmes, sur comment les accompagner, comment être. Mais comment on peut dire à une femme, arrêtez de crier. C'est insupportable.
Ouais,
mais qui êtes-vous? C'est quoi votre métier? Ah oui, soulager les gens. Ok, changer peut-être.
C'est clair. C'est
En fait, c'était. Et le sage-femme qui était trop gentil m'a dit: bon, je suis désolée, je pouvais pas vous le dire avant que ce mec-là était.
Ouais.
Parce que je voulais pas que vous tendiez avant la péridurale.
Apparemment, dit, c'était pas son coup d'essai. Quoi,
non, non, voilà, c'est quelqu'un comme ça. Ensuite, ils sont venus s'excuser à la maternité. Ouais. Mais c'est des gens extérieurs, en fait, ces gens.
Ouais.
Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur eux. Donc, mais j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée de comment on peut comporter comme ça aujourd'hui.
C'est fou, c'est clair, c'est clair.
Enfin bon, bref. Donc voilà, mais
non,
sinon,
mais bon, c'est intéressant.
Et c'était ma gynéco qui me suivait, qui m'a accouchée, qui était géniale. Et donc,
ça, c'est super.
Voilà.
Donc, ça, c'est une chance. Ouais,
c'est mais c'était long.
C'était long.
Comme un premier, quoi.
C'est ça. Et alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois?
Alors, c'est vrai que moi, comme ça a été très long, l'accouchement, j'ai ressenti quand même que... J'étais très soulagée quand ils l'ont sorti parce qu'elle était mal placée dans mon bassin, donc m'a fait très très mal.
D'accord.
Ils ont mis beaucoup de temps à faire en sorte qu'elle puisse être sortir de mon ventre. Et j'ai pas du tout ressenti le waouh, c'est merveilleux. Mon mec, il a pleuré. Moi, j'étais là, merci, enfin, c'est fini.
Ouais. Soulagement dans la salle.
Ouais. C'est juste, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter, cette douleur. Merci, quoi.
Ouais.
Parce qu'on me dit, oui, les douleurs de la contraction, on oublie. C'est vrai. J'ai oublié les douleurs de la contraction, l'intensité. Mmh. Je vois à peu près ce que ça fait encore dans ma tête. Par contre, la douleur de elle bloquée dans mon périnée, je l'ai encore.
Ouais, tu la sens encore.
Elle est vraiment restée longtemps, elle avait la tête de côté, et donc je me souviens encore de cette douleur, donc forcément, quand j'ai pas ressenti cet élan d'amour de dingue que certaines, dont certaines femmes parlent d'entrée, quoi. Par contre, on va dire, j'ai accouché le matin à 9h30, la première nuit, et tu dors pas. T'es comme ça devant ton bébé, c'est quoi ce truc, c'est à moi, c'est fou, et là voilà, tu ressens quand même... Et puis après, c'était plus de l'amour, c'était du... Oh, vous touchez même pas à mon bébé, c'est mon truc, c'est à moi.
C'était animal, quoi.
C'est fou, c'est fort ce sentiment.
Ouais, c'est fort, c'est clair. Et alors, comment se sont passés tes premiers mois de maman? Donc du coup, quand t'es rentrée à la maison, donc tu me disais que t'avais allaité, comment ça s'est passé? Et puis voilà, comment s'est passé le retour pour toi et l'installation dans cette nouvelle vie?
Alors, j'étais hyper heureuse d'avoir fait tous les cours de prépa à l'accouchement.
D'accord.
Je le conseille à tous les gens, parce que même si vous avez l'impression que ça sert à rien, choisissez des bonnes sages-femmes et faites-les, parce qu'ils nous avaient quand même... bien prévenu sur la chute d'hormones à 72 heures, donc voilà, à la maternité, d'avoir cette décharge émotionnelle. Moi, je me suis retrouvée à pleurer, mais à pas savoir pourquoi, le deuxième jour, elle est dans une angoisse. Et voilà, et la sage-femme, quand elle est venue, elle m'a demandé, est-ce que vous avez pleuré? Oui, ok, c'est normal. Et j'étais quand même déjà à savoir que ça arrivait. Après, j'ai ressenti beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. J'ai pas fait un baby blues ni une dépression postpartum, parce que m'occuper de ma fille, c'était vraiment la chose qui me procurait de la joie. Et je sais que quand on a un postpartum, c'est qu'on peut pas s'occuper de son bébé. Mais j'étais quand même dans une période, les 3-4 premiers mois, où voilà, je pouvais pleurer par terre pendant des longues minutes sans savoir ce qui m'arrivait. Je pense que je me sentais seule, parce que mon mec était complètement... dépourvu, enfin, il savait pas ce qui se passait.
Bien sûr,
lui, il ressentait rien. Et moi, j'étais agacée de voir que lui ne comprenait pas ce que je ressentais. Parce que toi, tu te sens, mais pourquoi moi je suis comme ça? Voilà, le postpartum, c'est vraiment une période très particulière que j'ai étudiée pour comprendre. Il y a très, très, très peu d'études en France là-dessus. On étudie très peu, malheureusement, le cerveau de la femme. Alors, j'ai lu énormément d'études américaines. anglaise. J'ai discuté avec des professeurs. Enfin, bon, je me suis ouais. vraiment enseignée. On appelle ça la matrescence. Je ne sais pas si tu connais
non,
ce mot.
Non, je ne connaissais pas du tout.
Donc, la matrescence, c'est... tu vois, cette période magnifique s'appelle l'adolescence. Ouais. Où ton corps et ton cerveau changent, en fait, ouais. dans une période ingrate. Mais la matrescence, c'est voilà, la maternité couplée à l'adolescence. C'est-à-dire qu'en 3-4 mois, il t'arrive ce qui t'est arrivé à l'adolescence.
D'accord.
Ton corps a changé ouais. et ton cerveau a changé. Aujourd'hui, ils ont étudié les zones du cerveau. On sait qu'il y a des zones qui s'activent, d'autres qui se désactivent pour te permettre de prendre soin de ton bébé.
D'accord. J'avais jamais entendu parler de ça.
Et ouais, mais moi, ça m'a vachement aidé de mettre un mot dessus. Ouais. Ok, la matrescence, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, quasiment. Ouais. Plus ou moins fort. Moi, je pense que c'était très fort. Moi, je m'en suis quand même retrouvée à me dire... je veux être femme au foyer, je veux plus jamais retourner travailler, je peux pas quitter mon bébé, c'est impossible.
Ouais.
Alors je pense que l'allaitement, ça permet une connexion très forte que sûrement t'as pas quand tu n'allaites pas. Moi je voulais pas allaiter à la base.
Ouais.
Et justement pendant les cours de prépa avec les sages-femmes, elles nous ont exposé les pour, les contre, en gros les avantages et les inconvénients d'allaiter ou pas d'allaiter, de donner biberon. Et donc elles nous ont dit, vous choisissez sans pression. J'ai dit ok, je vais essayer. Et en fait, je me suis dit, mais heureusement que je l'ai fait. Et j'ai dû arrêter d'allaiter pour reprendre le travail. Ça a été une souffrance.
Au bout de combien de temps?
Bah, tu sais, le sevrage, tu le fais, tu commences un mois avant d'arrêter. Donc, j'ai dû arrêter à 2 mois et demi.
Ouais.
Oh, mais c'est juste au moment où ça commence à être exceptionnel et oui. facile. Et t'as passé les 3 premières semaines très dures. Et c'est un truc, mais comme ça, avec ton bébé, c'est magique, quoi.
Ouais.
Quand j'ai dû commencer à arrêter, ça a aussi participé au fait que c'était très compliqué pour moi. Ouais. Très compliqué. Ouais. Mais c'était fou parce que t'as cet amour, mais que tu peux pas soupçonner.
Ouais.
Bien et ça, moi, comme tout le monde, j'aurais dit, oh, ouais, bon, arrêtez de nous gaver avec ça. Ouais. Non, mais ça existe. Et en même temps, cette détresse, cette solitude face à tes émotions.
Ouais.
Parce que moi, pendant ma grossesse, j'ai pas eu le sentiment d'avoir les hormones qui jouaient avec vraiment ces états fous où tu peux passer du rire aux larmes. Non. Par contre, après, très très fort. Et j'étais pas assez préparée à ça.
Ouais.
Aujourd'hui, je ferais différemment. Enfin, voilà, dans les cultures anciennes, pendant 40 jours, la maman, normalement, elle est allongée, on s'occupe d'elle.
Ouais.
Elle s'occupe de son bébé, mais on s'occupe d'elle, on lui fait à manger. Moi, j'avais ma mère à côté, mais heureusement, elle est venue me faire des soupes. J'étais incapable de me faire à manger.
C'est ce que j'allais te demander, ouais, si t'avais si t'avais un entourage à côté.
Ah ouais, heureusement que ma mère, elle était là.
Ouais.
Parce que mon conjoint, il travaille beaucoup en déplacement. En fait, il a réussi à rester beaucoup avec moi avant que j'accouche parce qu'il voulait pas rater l'accouchement, donc il était là. Mais une fois que j'ai accouché, mais du coup, oui, c'est-à-dire qu'il était pas là aussi de temps en temps. Et voilà, il y a un décalage qui se crée parce que toi, t'es H24 avec ton bébé, en plus tu l'allaites. Donc, c'était pas simple. On a vraiment mis plusieurs semaines à trouver un rythme.
Donc, au bout de 3-4 mois, t'as trouvé ton rythme de croisière, quoi.
Non, parce qu'on a été forcés, parce que j'ai repris le travail.
Et, oui.
et du coup, c'est parce que j'étais en déplacement, il avait pas le choix. Donc, mais c'était. Franchement, si c'était à refaire, je referais jamais comme j'ai fait.
Ouais.
J'ai été incapable de m'écouter. Je pouvais pas reprendre et je l'ai fait parce que j'ai un métier particulier où voilà, ça avait été annoncé dans la presse que je revenais en janvier, donc dans ma tête c'était mais oh, je peux pas leur dire que je reviens pas. Moi il m'aurait fallu 6 mois après l'accouchement,
un petit peu plus. C'est clair,
il me fallait qu'elle ait 6 mois. Elle était pas du tout dépendante et j'ai eu de la chance, c'est ma mère qui l'a gardée, mes beaux-parents, elle n'a pas été en collectivité, tu vois. Mais quand même, c'était que de la souffrance de la laisser. Je savais pas ce que je enfin J'avais beau faire ce qu'on dit le plus beau métier du monde, j'en avais rien à faire. J'étais loin de mon bébé, quoi. Des fois, j'étais dans d'autres pays. Elle avait que 3-4 mois.
J'avoue, ça doit être déchirant.
Ah ouais, c'était horrible.
J'ai pas vécu ça, moi. C'est vrai que du coup, ça... enfin, essayer d'imaginer, c'est...
Bah, c'est plusieurs nuits, des fois 3-4 nuits, t'es loin. Alors quand ils sont tout petits, dans un sens, tu dis, bon, ils s'en rendent pas bien compte.
Oui.
Ce qui est vrai.
C'est vrai.
Ils te le font pas ressentir. Mais enfin, aujourd'hui, ma fille, dès que je quitte la pièce, elle est dans une angoisse. Elle est... La séparation, elle est beaucoup plus difficile.
Tu sens que ça l'a marqué un peu,
je pense. Et ça a été aussi un des chemins de me dire, je peux pas faire un super ça, ma fille, c'est pas possible.
Bah, du coup, on va en parler justement. Et du coup, effectivement, en fait, t'as changé de vie professionnelle. Donc, quelques temps, en fait, après ta reprise, donc 6 mois après, je sais plus.
Après ma reprise, six mois après.
Six mois après. Et donc, en fait, donc, tu étais journaliste pour France Télé, donc sur toute la partie sport. Et là, maintenant, en fait, du coup, t'es indépendante, en fait. T'es devenue journaliste indépendante. Parce qu'il faut préciser, en fait, qu'à l'époque, déjà, tu vivais sur Bordeaux. Mais tu travaillais sur Paris, donc dans tous les cas, même quand tu voyageais pas, tu voyageais en fait dans tous les cas pour travailler, quoi.
Voilà. Exactement. Bah, il y avait la LGV, donc tu vois, les allers-retours, tu peux les faire dans la journée, mais c'est énormément de trajets. c'était pas la meilleure solution pour moi en postpartum, ouais. Où t'es déjà très fatiguée quand t'allaites, voilà, tu te lèves toutes les nuits. C'était compliqué. Et je te dis, je pense que peut-être que les choses auraient été différentes si je m'étais écoutée, que j'avais repris qu'à 6 mois.
Ouais.
Je me suis mis beaucoup de pression pour me dire, je peux pas en attendre les choses de moi alors que c'était ridicule. Enfin, ouais. Mais bon, ça, c'est comme ça. Hein.
Si on apprend, en fait.
Si j'ai un autre enfant, je ferais complètement différemment. Ça m'a vraiment transformée là-dessus. Et puis je te dis, j'ai tellement lu de choses sur ce thème, sur ça. Voilà, on est très préparé à s'occuper des bébés, mais dès qu'une fois qu'on a, enfin, tu le vois, t'es enceinte, donc toute la grossesse, on prend soin de toi.
Ouais.
Une fois que t'arrêtes.
Ouais, c'est fini quoi.
Voilà, tu te débrouilles. Bon,
c'est clair. Alors qu'en fait, finalement, c'est le moment où t'as le plus besoin.
C'est clairement là où il y a un manque, il y a un gros manque en France.
Ouais.
Et donc, tu vois, j'ai repris et j'étais là, mais. Ça va être dur, ça va être très dur, je vais le faire, ça se trouve ça va très bien se passer, ça a été compliqué pour moi, vraiment, donc j'ai lutté pendant 6 mois, je prenais pas vraiment de plaisir, et à un moment tu fais le constat, voilà, qu'est-ce qui est plus important, j'ai fait une liste de pour, de contre, ça faisait 6 mois que c'était en moi, peut-être qu'il me fallait une grossesse pour avoir ce déclic, je sais pas, tu vois, comment c'est la vie, c'est comme ça que le chemin a pris, et donc quand j'en ai parlé un peu dans à mon entourage, bon, mon mec était hyper... il m'a su
compréhensif
on m'a encouragé et mon père m'a dit ok mais tu pars pas sans savoir ce que tu fais après et donc ça me tracassait, je me disais faut que je trouve et en fait j'étais là mais non en fait ça va pas être ça va être... je sais ce que je ne veux plus, c'est cette vie, ce rythme, voilà, ce milieu aussi en général, parce que voilà, le milieu de la télé c'est un milieu qui est dur, soyons honnêtes. J'avais un rejet un peu là, j'étais à un moment, je savais même plus si je voulais encore travailler à la télé, j'étais pas bien. Et j'ai dit voilà, j'ai eu le déclic en écoutant le podcast avec Sophie Trem que tu as interviewé, et c'était fin mai et début juillet, je leur ai dit mais je vais partir, et je savais pas vraiment encore ce que je voulais. J'avais une petite idée mais j'avais pas de plan, je partais pas pour une autre télé, je voulais juste arrêter cette spirale,
ce rythme quoi.
Pour moi c'était vraiment une spirale négative, c'était dur, c'était vraiment très très dur physiquement, psychologiquement. Et je me suis sentie libérée quand j'ai dit, et pourtant je savais pas ce que j'allais faire. Donc c'était un peu le saut dans l'inconnu, mais une fois qu'on l'a fait en fait...
C'est soulagé, on est soulagé.
Voilà, on se dit, allez on y va. De toute façon, quoi qu'il arrive, je me voyais pas en septembre repartir sur ce rythme. C'était pas possible. Donc, et j'étais tellement heureuse les premières semaines où j'étais tout le temps avec ma fille, je la voyais tous les jours quoi. Moi ça m'arrivait pas de la voir tous les jours. C'était un bonheur. Donc ça a été le déclic. C'est clair que ma maternité, elle a joué un rôle énorme
Sur ta vie pro. Donc du coup, en fait, sur l'équilibre vie pro vie perso, toi, c'est quoi ton avis là-dessus?
Moi j'ai été très vite habituée à dormir. Il y a des gens qui peuvent pas laisser leur bébé nuit avant des années. Donc voilà, moi j'ai pas eu le choix. Donc tu vois, hier soir, on est à Paris, j'étais pas chez moi. C'est pas grave, ça va, ça je le gère parce que je sais que je choisis, que j'ai cette liberté. Pour moi, ce qui est le plus dur dans l'équilibre vie pro-vie perso, c'est que c'est vrai, encore une fois là-dessus, j'en ai lu beaucoup des choses, j'en ai écouté beaucoup des podcasts, enfin, ça m'a intéressé. On nous fait croire que c'est peut-être possible, mais je suis pas sûre que ce soit totalement possible. Je pense que quoi qu'il arrive, quelque part, tu fais un sacrifice. Après, tu le choisis. Le mieux, c'est de le choisir, le sacrifice que tu fais. C'est de pas le subir.
C'est ça.
Moi, j'ai fait le choix de sacrifier peut-être ma carrière à la télé. Je considère que dans ma vie, c'est pas ça qui me restera, ce sera plutôt ma famille et moi, mon état mental perso, quoi.
Puis finalement, en fait, oui et non, parce qu'en fait, toi, tu continues en fait à faire des...
Oui, du coup, je continue avec Beansport qui est venu me voir fin septembre par rapport à ça. Donc c'est cool parce que je m'organise comme j'ai envie, je continue à faire la compétition que j'aime, je bosse avec des gens qui sont cool, donc... Et je choisis, voilà, c'est encore une fois, c'était ça l'important pour moi, je pense. Et puis, en fait, le fait de sortir aussi d'une situation de salariat, moi, personnellement, ça m'a enlevé... ce petit confort où tu réfléchis pas trop, tu te laisses porter, on te fait faire. Et c'est pas trop mon caractère finalement. Et du coup là, j'ai eu l'impression d'enlever cette couverture qui m'étouffait un peu et de me dire maintenant, vas-y, qu'est-ce que t'as envie de faire. Donc j'ai eu plein d'idées qui sont arrivées qui étaient pas là avant. Et ça, ça fait du bien quand on sent son cerveau
en ébullition, c'est ça.
Parce qu'il y a aussi la réalité du cerveau, on appelle ça le mommy brain, donc le cerveau de la femme enceinte et après.
Ouais.
Et effectivement, on est peut-être un peu asphyxié parce qu'on est concentré sur notre nouveau-né, donc on a moins d'envie d'extérieur.
Ouais.
Moi, je sais que j'aurais pu rester, et ça, mon mec, il comprenait pas, mais j'aurais pu rester un mois enfermée à la maison. je comprends. La première fois qu'on est sorti au bout de 10 jours, 2 semaines, c'était une souffrance pour mon mec de rester autant de temps à l'intérieur, mais moi j'étais mais agressée par l'extérieur. Je sais pas si ça avait été ça. Avec...
Non, moi j'ai pas eu ça,
Oh là là,
mais je suis pas beaucoup sortie, hein, j'avoue, les premiers temps. Bah, ne serait-ce que moi aussi j'ai allaité. Et ne serait-ce que parce que je savais pas trop comment faire, quoi. Ça me paniquait trop, en fait, de me dire, ah là là, si elle a faim, déjà que c'est pas trop calé, tu vois, faut que je sois au calme, tu vois.
Ah ouais, alors ça, moi, déjà, je suis pas pudique, donc j'en avais rien à faire.
Ouais.
J'avais pas de soucis, les gens, ils sont pas contents. Je nourris ma fille, et ça me choquait pas. Mais je comprends ce que
moi, c'était plus la logistique que le côté pudique.
Ah,
mais
je trouve qu'il y a moins de logistique avec l'allaitement que le biberon.
Mais c'est vrai,
je passe au biberon, n'oubliez les dosettes. Alors que, voilà,
t'as l'air,
je suis là. Mais je sais que la première fois que je suis sortie, les voitures, le bruit, la lumière, je me suis dit, mais comment les gens ont envie de sortir, de passer du temps en famille? Enfin, moi, je voulais juste être avec mon bébé, mon mec, et basta, le reste, fort, quoi. Et là aussi, je me suis trouvée vachement en décalage avec mes copines, les pauvres, parce que, voilà, elles étaient toutes excitées, étaient contentes, et je trouvais qu'elles parlaient fort, je trouvais que... Mais c'est vrai, moi, t'as besoin, en fait, de calme. On le dit pas assez, t'as besoin d'être dans un cocon, mais réellement, quoi. Et tout pour moi était agression.
Ouais.
Vraiment.
Mais je pense aussi, elle est née au mois de septembre, t'as dit, c'est ça? Je pense aussi, ça dépend, je sais pas, moi, j'ai une théorie là-dessus, ça dépend aussi du mois. Ouais, je pense, parce que moi, tu vois, ma fille est née au mois d'avril. Et mon fils va naître au mois d'avril. Et en fait, comme c'est le printemps, je pense que tu t'es déjà tapé tout l'hiver, tu vois.
Ouais, t'as envie de sortir.
Donc, en fait, du coup, tu sais, il fait beau. Je pense que ça dépend aussi. Parce qu'au mois de septembre, tu rentres dans l'automne.
Bah, alors, quand j'ai accouché, il avait fait pendant 2-3 semaines, il a fait 30 degrés.
Ah oui.
On allait vraiment l'été indien à Bordeaux.
Ouais.
Et c'était trop agréable. Hein. C'était génial pour moi. Je pouvais me balader avec elle dans les semaines après. Mais j'avais beaucoup profité de l'été de l'extérieur, avant d'accoucher. Donc, j'étais pas frustrée.
Voilà. J'avais
pas de... moi j'étais en maillot de bain, j'étais hyper bronzée, j'avais pas de frustration de l'hiver, si tu veux.
C'est ça,
Donc alors si que... j'avais pu passer tout l'hiver avec elle à la regarder toute la journée, à m'émerveiller, mais j'étais fascinée, moi. J'ai fascinant. Beaucoup de chance que j'ai une maman qui nous a vraiment élevé là-dedans, dans la fascination pour ce qu'est un enfant, de se dire c'est une personne, c'est pas quelque chose qu'on ne considère pas.
C'est vrai que
c'est important. Et donc, de nous avoir... Moi, en tout cas, elle m'a vraiment montré le côté... c'est génial, un bébé. Ça apprend beaucoup de choses. Tu peux lui apprendre plein de choses. Parle-lui. Voilà, elle m'a donné beaucoup de bouquins. Avant que je naisse, elle avait été au Canada, au Québec.
Ouais.
Où ils sont très en avance sur nous, sur l'éducation bienveillante. Parce que je suis une fervente défenseuse... je ne sais pas si on dit, mais comment on dit, mais... Défenseur de ça, des bienfaits. Je me forme à ça. Je fais plein d'ateliers. Donc, je suis vraiment passionnée. Mais ça vient de ma mère, je le sais. Donc, pour moi, tu vois, j'entends des gens dire « avant un an, c'est pas intéressant, un bébé ». Ben, si tu intéresses vraiment, c'est magnifique.
Ouais,
c'est parce que tu t'es occupé d'eux très bien dans ces premiers mois que ils vont être pleins de confiance et voilà.
C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup aimé les premiers mois. Enfin, j'aime toujours maintenant, mais j'ai beaucoup aimé les premiers mois, contrairement à ce que je pensais. Enfin, tu vois.
Exactement.
Et à ce que j'imaginais du fait de ce qu'on dit.
Voilà. C'est dommage d'avoir cette.
Ouais, c'est vrai.
Ce cliché de dire, ah oui, ça fait que dormir et ça fait caca et ça mange. Oui.
Oui.
Mais enfin, l'interaction, l'amour qu'ils ressentent, le fait de jamais les... Voilà, ça, tu vois. Heureusement que j'ai été voir une sage-femme avant qui nous a dit aujourd'hui, on sait, la neuroscience le prouve, on ne laisse pas pleurer un bébé.
Ouais.
Un bébé, il pleure parce qu'il a besoin de vous, il est dans un réflexe de danger. Donc, il ne faut pas écouter ce qu'on disait de les laisser pleurer, ça va leur faire du bien, ou arrêter de les porter, ils vont faire des caprices. Non. Aujourd'hui, on sait, c'est faux.
Ouais.
Et ça fait du bien d'entendre un professionnel.
Bien sûr, moi je savais pas, tu vois, et c'est pareil, elle m'a dit, je sais plus, alors tu vois, je vais m'en mettre dedans, mais je sais plus jusqu'à quel âge elle m'avait donné, en fait, un peu un... Enfin bon, après, nous, on a continué à faire comme on l'a jamais trop laissé pleurer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle disait, franchement, les caprices, c'est pas
avant... Alors déjà, ça n'existe pas, un caprice, dans le langage, aujourd'hui, on sait, c'est... Aujourd'hui, même... Moi, de tout ce que j'ai lu, c'est 5 ans, et là, j'ai encore en train de lire des études qui te disent, même vers 7 ans déjà, le cerveau de l'enfant n'est pas capable de faire ce lien
Ouais.
de ce que dans le caprice, il y a une espèce
De manipulation,
manipulation, en
ouais.
fait. Et ça, c'est plutôt comment l'adulte le voit et l'interprète, alors que c'est juste les émotions des enfants qui ne sont pas gérées. Et c'est tellement intéressant, mais tellement, parce que ça parle de nous adultes, en fait.
Ouais.
Et les gens qui me disent, ah, mais c'est bon, le monde des bisounours, ben non. Éduquons des enfants bienveillants, qui sont attentifs à leurs émotions, qui les comprennent, qu'on n'a pas nié, qui n'ont pas été tapés, parce qu'aujourd'hui, on pense
Oui.
en France que c'est normal de taper des enfants. Moi, ça me choque, mais voilà. Et je te dis, bon, voilà, moi, ça a été. Mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres, d'études, mais c'est fascinant. C'est fascinant
Ouais.
sur l'humain, en fait.
Ouais, ça t'a en fait ça t'a un peu transcendé aussi
Ouais, mais en fait,
donc
finalement, c'était en moi, parce que je te dis,
Ouais.
moi j'ai été animatrice en colo, je faisais des colos, tout,
Oui.
depuis toujours le BAFA. Enfin, les enfants, c'était quelque chose déjà qui m'intéressait.
Ouais,
Donc,
t'avais une
c'est
bonne
vrai que d'avoir eu
compréhension.
ma fille, je me suis dit, waouh. Et pour moi, ça se transpose, tu vois, avec le sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le mental dans le sport. Et ça joue beaucoup sur la culture en France. On est dans une culture où on critique beaucoup, on est beaucoup dans le négatif. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu l'autre côté des choses.
Ouais.
On n'est pas obligé d'aller dans le positivisme extrême et de pas voir ce qui va pas, mais. En fait, les enfants à l'école en France, on leur dit beaucoup, t'es nul, tu vas pas y arriver. La prépa, c'est génial parce que tu te retrouves à avoir été un bon élève et d'un coup, on te met 3 et waouh, ça va t'apprendre la vie. Mais enfin, c'est prouvé par les neurosciences que ça n'apporte rien.
C'est
Quand
sûr.
on te dit t'es nul, tu vas pas t'améliorer. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est des trucs que je peux retrouver dans le sport où à l'ancienne, les entraîneurs, ils vont avoir besoin de rentrer dedans, d'être méchants. Alors que peut-être, il y a des joueurs, ils ont besoin qu'on les mette en
C'est
confiance.
ça,
Tu
ça
vois?
dépend des personnalités aussi,
Voilà,
ouais,
exactement.
c'est clair, faut s'adapter à qui t'as en face.
Et voilà, et pour moi, c'est pour ça que ce qui se passe à l'enfance, tu le vois aujourd'hui dans la société.
Ouais.
Et je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais moi, quand je suis retournée au travail, ça a été violent, je le dis, parce que dans un sens, avec ton bébé, t'es dans une bulle d'amour.
Ouais.
Il y a que. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Je sais qu'il y a des parents qui sont dépassés et c'est très dur. Moi,
Ouais.
voilà, c'était vraiment. Ok, elle pleurait, oui. À 18h, comme beaucoup de bébés, elle a une décharge émotionnelle, elle pleurait
Ouais.
beaucoup. Oui, je me réveillais 4, 5 fois dans la nuit.
Ouais.
Ok, mais c'était un truc magnifique. Et
Ouais.
quand t'arrives dans le monde du travail, ah, moi, j'étais pas prête. Les gens qui
Ouais.
critiquent, alors peut-être dans notre milieu, c'est plus fort, tu vois, mais
Ouais.
les trucs mesquins, ah non, mais personne fait attention à toi, on te parle. Voilà,
Oui,
y a
c'est
pas
comme si
cette
de rien ne s'était
bienveillance.
passé finalement,
Et
ouais.
moi,
Alors
ça,
que toi, t'as vécu un
je.
tsunami, quoi,
Ah
ouais.
ouais, et c'était des tsunamis, c'est ça.
Ouais. Non,
Et tu
ouais.
prends un peu une. Wouh! Ok,
Ouais, tu te sens
j'avais
un peu
oublié
en
que la vraie vie
décalage.
c'était ça, j'aime pas du tout en fait.
Je vais retourner chez moi.
Oui, ouais, exactement, rendez-moi mon cocon là, j'étais
Ouais,
bien.
c'est clair. Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai pas vécu ça, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de commencer, en fait, à créer Jolie
Ton
Bump
activité?
juste après la naissance de Jeanne. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà. J'ai pas eu ça a été plus doux, ouais, c'est
Ouais,
vrai.
mais
Ouais.
je pense que pour si j'ai un
Ouais.
prochain enfant, ce sera plus doux. Mais en tout cas, je ferai en sorte que ce soit plus doux.
Et du coup, en fait, t'as parlé du sport, donc je sais que t'es très sportive, et donc en fait, je voulais parler un peu de ton rapport à ton corps de maman. Enfin, déjà, est-ce que t'as fait du sport pendant ta grossesse? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Et puis aussi, ben, en post-grossesse, voilà, quel est ton rapport à ce corps?
Alors, j'ai pas trop fait de sport parce que j'étais très très fatiguée. Les 3
Ouais.
premiers mois, franchement,
Ouais.
chapeau à celle qui arrive à faire des trucs. Oh,
Ouais.
j'ai envie de rien. De toute façon, j'avais la nausée toute la journée. À 19h, on me parlait, je faisais comme ça. J'ai fait un peu de yoga prénatal. Malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup, beaucoup.
Ouais.
J'ai pas trouvé que c'était très efficace par rapport à. Moi, je faisais quand même pas mal de yoga et je trouvais ça un peu. Pas adapté à mon niveau. Alors que normalement, ça doit un peu s'adapter. Mais j'avais pas trouvé, je pense, les bons cours. Je marchais beaucoup par contre,
Ouais.
mais j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions de
D'accord.
Braxton, ce qui fait que mon ventre devenait très très dur à partir du 6e mois. Et là, il y a des fois, on a fait 15, 20 bornes de vélo, je
Ouais.
souffrais quand même,
Ouais.
c'était difficile. Puis bon, j'avais pas de pression particulière, franchement,
Oui.
j'avais pas grossi des masses les 6 premiers mois. Les 3 derniers, j'ai beaucoup grossi. J'avais des envies de sucre de malade. Oh, c'était horrible. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était l'été, donc plus facile. Tu vois, t'es
Ouais.
dehors, tu bouges, tu
Ouais.
marches. T'es pas un peu
Oui, tu te
confiné
sens
l'hiver.
pas
Non, ça va.
enfermé.
Et puis bon, bah, j'ai pris 14 kilos quand même. Bon, ça va,
Ouais. Bon,
c'est
ça
pas
va.
anodin.
Ouais.
Ça, je les ai sentis. Hein.
Ouais.
Et en fait, non, moi, on te vend un peu aussi le truc de l'allaitement, ça fait maigrir.
Ouais.
Je suis pas tout à fait d'accord en fait. Moi, ça a été plus l'inverse. J'ai très vite perdu le poids du bébé quand je suis rentrée de la maternité. Ouais. Alors, c'est très bizarre son corps.
Ouais.
Ce ventre où il y a plus... Moi, j'avais des abdos, il n'y a plus d'abdos.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a du vide. Et de plus sentir.
Ouais.
Et en fait, moi, j'ai beaucoup grossi pendant l'allaitement.
Vraiment. Ouais.
J'ai forci parce que trop fatiguée, parce que complètement déboussolée, parce que pas bien. Envie de pas prendre soin de moi,
ouais.
Complètement tournée vers mon bébé. Et j'ai beaucoup mangé de sucre aussi
ouais.
à ce moment-là. Et c'était dur. Hein. La vision de mon corps, ouais, c'était particulier. Alors déjà, t'as une poitrine. Moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, ça te fait bizarre.
Ouais, ouais, c'est clair.
C'est un peu encombrant, on va dire.
Ouais, moi qui en avais pas mal, je veux dire, c'était l'angoisse.
Et tu sais que j'ai recommencé à pas faire du yoga. Et tu sais, j'étais par terre dans les positions. Je fais, il y a un truc qui me gêne là. Ah oui,
c'est la poitrine, ça. Ouais.
Je suis pas habituée à ce rapport-là dans mon corps. Et en fait, au bout de 2 mois et demi, j'ai voulu recommencer à reprendre le yoga, donc avec des copines. Ça a été très dur pour ma fille. Je l'avais jamais quittée à ce moment-là.
Oui.
Donc c'était un cours le soir, hein, pourtant. Ouais. C'est ma mère qui l'a gardée avec mes beaux-parents. Hein, crise d'angoisse et tout.
Ouais.
Bon, moi, j'ai fait mon cours. Horrible aussi.
Ouais, ouais, c'est clair.
Quand tu t'en rends pas compte, ça, on te le dit peut-être pas assez, mais plus de force
ouais.
du tout.
Ouais.
Voilà, tu peux pas faire une pompe. Enfin, sur le yoga, tu peux pas te relever correctement. Ouais. C'était un cours d'ashtanga qui est très dur, le ashtanga. Ouais. Au bout de 10 minutes, j'étais complètement oxy.
Ouais.
Alors en plus, on te dit de pas trop boire pendant ces cours-là. Moi, comme j'allaitais, il faut quand même boire.
Ouais.
Donc bon, ça... Bref, c'était une catastrophe. Heureusement que je sais ce que c'est le yoga, que j'adorais, et que je n'ai pas dit, bon, stop, je ne referai plus jamais.
Ouais.
Parce que c'était dur. Et puis, j'ai recommencé doucement le yoga. Et en fait, au fur et à mesure, c'est quand même revenu. J'ai pas du tout recouru direct parce que j'ai un périnée très faible, même aujourd'hui.
Okay.
Très compliqué. Un an et demi après, c'est compliqué. Ouais.
Tu continues à faire de la rééduque?
Non, il faut que je refasse. Mais bon, avec le yoga, déjà, ça fait. Mais oui. Là, il faudrait que je refasse une plus sérieuse. Je l'ai fait sérieusement, mais c'était pas assez pour moi.
Ouais.
Et puis alors, là, l'inverse, comme apparemment aussi à beaucoup de femmes, j'ai beaucoup minci après.
Ah, moi aussi.
Et je suis 3 kilos plus fine que ce que j'étais avant.
Ouais, ouais.
Bon, évidemment. Les seins, c'est parti, mais du coup, ça fait du poids en moins, forcément.
Ça,
non, mais j'ai séché, on va dire. Voilà, on m'avait vraiment dit, Clem, il faut 9 mois. T'as mis 9 mois à faire un bébé, il te faut 9 mois. Et je suis pas habituée, moi. Il fallait que ça revienne vite, que j'ai des sensations. Au-delà de comment mon corps, il était, j'ai envie de sentir de la force.
Ouais.
Tu vois, de pas se sentir faible comme ça, plein de gras, de cellulite que j'ai eu, hein, comme tout le monde. Et à partir du 9e mois, incroyable.
Ouais.
Je sais pas pourquoi on m'a demandé. Franchement, j'ai pas d'explication. T'as moins de temps quand t'as un bébé.
Ouais,
effectivement,
déjà.
Hein, tu passes moins de temps que sur le canapé, rien faire.
C'est clair.
Donc, je mangeais moins, ça c'est sûr et certain. J'ai refait plus de yoga, j'ai beaucoup plus bougé parce que j'adore me balader avec ma fille, donc on partait en balade. Mais je saurais pas expliquer.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu physiologique parce que moi c'est pareil. En fait, j'ai pas bougé pendant l'allaitement. Mais du coup, j'étais déçue. Hein.
C'est pas vrai,
j'ai stagné. J'ai pas spécialement grossi. Mais quand j'ai arrêté d'allaiter, alors là, d'un coup quoi. Enfin, en un mois, je me suis séchée.
T'as mangé les bénéfices alors.
Ouais, c'est ça. Je me suis séchée de l'intérieur un peu quoi.
Ça, moi aussi, j'ai séché. Ouais. Après, moi, c'était beaucoup plus tard parce que j'ai arrêté d'allaiter à 3 mois et demi.
Ouais.
Et j'ai commencé à sécher 8 mois quoi.
Ouais.
Postpartum. Mais c'était.
C'est étonnant, ouais. Ouais. C'est étonnant, mais j'ai plusieurs personnes, plusieurs femmes qui m'ont dit ça, donc je me demande si c'est pas un peu physiologique. Faudrait étudier la question.
Je m'attendais pas à ça, en tout cas. Par contre, je m'attendais pas du tout à. J'ai perdu énormément de cheveux. Énormément.
Ouais, ça, moi, je le savais, mais. Effectivement.
Non, moi, je savais aussi, mais vraiment, moi, ma dermato, la coiffe, elles m'ont dit qu'elles avaient rarement vu ça.
Ah oui.
J'ai vraiment perdu. Là, ça se voit pas, mais tu vois, les cheveux. Les gens verront pas au podcast. En gros. Ce que tu vois là, c'est tombé.
Ouais, donc,
mais moi, j'ai toute la première ligne, tout ici, tout là. Mais c'était l'enfer.
Oh, incroyable.
Puis je fais quand même un métier d'image, donc j'étais un peu mal à l'aise. C'est hyper frustrant.
Ouais.
Tu les vois tomber, tu te dis, c'est pas possible. J'avais des cheveux magnifiques pendant ma grossesse, mais vraiment.
Oui, parce que t'as des beaux cheveux.
Qui ont éclairci. Et là, j'ai dit, mais c'est une blague. Ça va jamais s'arrêter, ce truc.
Ça s'est arrêté au bout de combien de temps?
J'ai eu 2-3 mois de très grosses pertes.
Ouais.
Mais du coup, ça commence seulement à me faire une frange.
Ouais.
Si tu veux, je suis 16 mois après l'accouchement. Hein,
ouais.
Donc, c'est la mauvaise surprise de...
Ouais,
de
non, mais moi, j'en ai
pas. Les cheveux, c'est important quand même.
Ouais, non, c'est clair.
Et
c'est
puis vrai. Moi, c'est la première ligne, donc ça se voit.
Ouais.
Tu vois, si encore, c'était en dessous, derrière...
Ouais.
Ah, ça c'était dur. Et alors, du coup, je vais voir une naturopathe parce que très fatiguée. Elle m'a dit, écoute, je pense que j'ai eu des caries. Enfin, j'ai eu
Ah
plein de
oui,
trucs
ça
un
c'est
peu
classique aussi,
rebond,
il
ouais.
paraît, ouais.
Et en fait, il faut peut-être. J'ai une fatigue profonde. Et donc, là, on est en train de réajuster. Je commence enfin à sentir les bénéfices, à être moins fatiguée.
Ouais.
Mais ça prend du temps. Le corps, il prend cher, hein.
Bah quand même, ouais,
On
en
s'en
fait
rend pas
on
compte.
dit pas, on dit pas beaucoup
Non.
finalement,
Mais on ne dit pas pour dire on veut pas
mais
effrayer. Non.
ouais,
Éduquons les gens,
faut le savoir,
voilà,
ouais.
donnons les outils aux gens, aux femmes, évitons de les aveugler, de dire ça va être merveilleux, de leur mettre une pression. Dites-leur, il y a ça, de ça à ça peut se passer. Tu peux ne pas perdre tes cheveux, tu peux avoir des boutons pendant ta grossesse ou pas.
Oui, tout à
Mais
fait.
voilà, il y a tout ça. Et parce que moi, pendant tu vois, la période des 3 premiers mois où j'étais pas bien, je me sentais vachement culpabilisée par l'image qu'on renvoyait des femmes enceintes.
Ouais.
Parce que je ne correspondais pas à cette image-là. Je me disais, attends, je suis une mère indigne. Enfin, tu es déjà en train de te dire, je suis bizarre, je suis pas
Ouais.
normale. Non, tout ça, c'est normal.
C'est
Mais on ne le
normal,
dit
ouais.
pas assez.
C'est vrai,
Tu vois,
c'est
on
vrai.
peut être n'importe quoi enceinte, mais il faut juste dire que ça peut
Les
exister.
possibilités, ouais.
Exactement. Et
Non, c'est vrai.
malheureusement, je trouve que on ne le dit pas assez. Et aujourd'hui, je regrette rien.
Ouais.
Enfin, voilà, je m'en fiche, mon corps, il a changé.
Ouais.
C'est très cool. Enfin, mon corps,
Ouais.
il a. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais moi, pendant des semaines, j'étais. Putain, j'ai créé une vie quand même. C'est un truc de
Ouais.
malade. J'ai créé un être humain.
C'est vrai, moi
Et
j'ai pas trop réalisé ça, mais c'est
bien, moi,
vrai.
avant d'avoir un
Ouais.
enfant,
Ouais.
ça me posait. Je sais pas, j'y pensais pas. Mais une
Ouais.
fois que je l'ai fait, je me dis, c'est fou.
Ça
J'ai
t'a donné une
créé un être.
fierté
Ouais,
de
bah,
ton corps,
peut-être un
quoi.
peu plus de bienveillance
Ouais.
envers
Oui.
ton corps.
Oui, c'est ça. Mais c'est souvent ce qu'on dit.
Ah, il faut,
Ouais,
parce
il
que
faut.
c'est de l'entraînement.
Non, mais c'est vrai. Et alors maintenant, on va parler un peu de transmission et d'éducation. Donc
Ouais.
en fait, quelles sont, du coup, je pense que j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup à ça. Donc quelles sont les valeurs essentielles que tu veux transmettre à ta fille? Et voilà, enfin, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent vraiment voilà, essentielles, incontournables?
Ben moi, je suis pas du tout dans le truc, faut qu'elle sache dire merci, bonjour, au revoir.
Ouais.
Voilà, ça fait pas des enfants heureux, des enfants à qui on a juste appris ça.
Ouais.
C'est clair que c'est une passion pour moi, l'éducation.
Ouais.
J'ai vraiment, vraiment lu des centaines de pages là-dessus. Je me suis formée, je suis en train de me former à. Voilà, je fais des trucs sur Montessori, sur plein d'ateliers, Faber et Maslisch notamment, éducateurs, Thomas Gordon. Donc, c'est des courants de
D'accord.
parentalité. Et j'ai découvert énormément de choses, c'est hyper intéressant. Et moi, je pense que la chose que je veux pour elle, c'est qu'elle ait confiance en elle. Qu'elle soit autonome, parce que c'est aussi. Voilà, Montessori, j'aime beaucoup pour ça. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême, mais c'est de donner ce pouvoir aux enfants, je trouve que
Ouais.
c'est magnifique, quoi. Et petit, très petit, ma fille, elle a 16 mois. Elle fait plein de choses d'elle-même et elle est trop fière. On a appris la langue des signes pour elle. Enfin, non, on n'a pas appris la langue des signes parce que ce serait insulté, c'est pas vrai. On a appris des signes
Oui.
pour signer avec elle. Elle sait dire plein de choses, elle comprend plein de choses. Mais c'est génial parce que t'enlèves quand même beaucoup de frustration à un
Oui, tout
enfant.
à fait. Ça les apaise, ouais.
Voilà,
Ouais.
et moi, ce que je voudrais pour elle, c'est ça, c'est qu'elle n'ait pas peur d'être elle-même et que la différence, c'est bien. Et ça m'apprend à moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui a des idées très fortes, qui
Ouais.
a un gros caractère quand même. Donc, avoir un enfant, ça te remet en question
Ben,
en
ça, c'est
permanence,
sûr.
donc c'est génial. Et j'ai aucun problème à le faire avec les enfants, plus avec les adultes. Et du coup, j'aimerais que ma fille ait cette bienveillance, cette empathie envers les gens, de se dire, baisez pas comme moi, c'est pas grave,
Ouais.
je vais pas me sentir agressée et moi je suis heureuse. Voilà, c'est ça surtout le plus important parce que je serais trop heureuse si ma fille elle me dit qu'elle a aidé à la cour de récré, que enfin voilà qu'elle fait attention aux autres et
Ouais.
c'est important, moi je trouve. Si on veut un monde meilleur.
Ouais, bah
Et
c'est
c'est pas le
vrai.
monde des bisounours, c'est juste un monde meilleur.
Et du coup, en parlant de transmission bah, ascendante un peu, tu as parlé un peu de ta maman. Enfin, en quoi est-ce que ta relation avec ta maman, elle impacte ta vision de la maternité? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Ou voilà.
Ben, c'est clair que j'étais très contente d'être à côté d'elle quand j'ai eu ma fille. Et je pensais pas à ce point-là avoir besoin d'elle. Et c'est marrant. Et c'était un soulagement énorme qu'elle soit là. Parce que même, j'avais plein de questions et de comment on fait. Enfin, est-ce que c'est normal? Alors, il y a plein de choses qu'elle avait oubliées. Regarde-toi. Ta fille a 3 ans et demi, t'as oublié. Donc
Moi, j'ai oublié
imagine
plein de
30 ans.
trucs, ouais, c'est
Voilà.
clair.
Mais quand même, ma mère, elle est très, très dans ce truc-là. C'est une personne extrêmement gentille. Donc, c'est vrai que le lien mère-fille, Il est particulier. Je pense que je suis heureuse d'avoir une fille pour ça.
Ouais.
Je voulais une fille, je suis honnête. Parce que j'ai qu'une sœur, on est que des filles dans ma famille. Donc
Ouais.
pour moi, c'était important d'avoir une petite fille. Aujourd'hui, je serais heureuse d'avoir un petit garçon si j'en avais un. Parce
Ouais.
que je pense que c'est important d'élever des garçons
Bien que bien compris.
féministes,
C'est
si je puis
ça.
dire. Mais tu sais, j'ai lu plein de choses aussi sur ça, de se dire, et je l'ai dit à ma mère, ça l'a fait sourire, quand t'es une maman et que tu portes une petite fille, tu portes tes futurs petits-enfants. Parce
Ouais,
que les
c'est
petites
vrai.
filles dans le ventre, elles ont déjà leurs ovules, les ovaires qui marchent.
C'est vrai.
Donc elles ont déjà une partie de la génétique de tes futurs petits-enfants. Et je trouve ça beau, tu vois, de
Ouais.
dire ce lien mère-fille que t'as. Et non, mais moi, ma mère, elle m'a donné direct les livres qu'il fallait lire. Enfin, elle m'a ouvert les yeux sur tout. C'était génial, quoi. Et sans
Ouais.
juger. Et
Oui,
c'est
ça
important.
c'est important.
Ah
Ouais, c'est
ouais.
pas
Parce
forcément
que je sais qu'il y
évident.
a beaucoup de gens qui ont des
Ouais.
relations assez compliquées avec les
Ouais.
parents, d'écouter.
Ouais.
Et non, donc
Ouais, du coup, elle est très
bien.
présente, en
Ben
fait.
ouais, du coup, nous, on a de la chance.
Ouais.
Nos parents, ils sont à la retraite et ils gardent notre fille une fois par semaine chacun. Donc, ils ont un
Ouais.
lien très fort avec elle.
Ça, c'est
Ça,
cool
c'est...
aussi.
Ouais. Que j'ai pas eu,
Ouais.
moi, avec mes grands-parents. Donc,
Ouais.
je suis contente de leur offrir ça. Je
Ouais.
sais que c'est le moment de bonheur pour eux, dans la semaine.
C'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité? Bon, t'en as un peu parlé, mais ça, c'est un sentiment que t'as ressenti, mais est-ce que tu... Bah, t'as réussi du coup à le surmonter. Est-ce que c'est un sentiment qui t'est encore familier ou maintenant, enfin voilà quoi.
Ouais, je sais pas s'ils quittent un jour
Ouais.
les parents. C'est dur de se dire, je fais ma vie, tu vois. Ça aussi, on est un peu bombardé de ça. Prenez soin de vous. Une personne qui se prend soin d'elle va mieux s'occuper de ses enfants. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est dur à faire? Franchement, dans les faits, c'est un truc tout bête, hein, mais tous les matins quand je me réveille, si je l'entends que c'est elle qui m'a réveillée, parce que je ne suis pas réveillée avant, et que j'ai envie d'aller faire pipi, je
Ouais.
suis obligée de me forcer de me dire non, va faire pipi avant.
Et
Et ne
après,
va
tu
pas
reviens.
t'occuper d'elle tout de suite. Parce que sinon, mais instinctivement, j'ai envie d'aller faire. Et de
Ouais.
me dire, ah, je te jure que c'est un mantra dans ma tête, je me dis, prends soin de toi d'abord. Et c'est juste par, je vais faire
Ouais, je comprends. Ouais,
pipi.
bah,
Tu
ça
vois ce
part
que je veux dire? Ça part de là. Mais tu vois à
de
quel
là,
point c'est
ouais.
difficile
Non, c'est
parce que
clair.
t'as envie que ton bébé, il sente que t'es là, quoi.
Ouais.
Enfin, je pense que ça doit être tellement déroutant pour un petit enfant d'arriver dans le monde.
Ouais.
La seule survie qu'ils ont, c'était les parents. Donc, si on n'est pas présent, c'est une angoisse monstrueuse, tu vois.
Ouais.
Et je pense que je me mets beaucoup de pression par rapport à ça.
Ouais.
Mon mec, beaucoup moins. Il est plus tranquille. Il dort plus tranquille. Je dormais pas bien au début. Hein. C'était difficile. Et la culpabilité aujourd'hui, après, voilà, je culpabilise plus de partir faire travailler. Après, je te cache pas qu'il y a plein de fois, je me dis, je serais bien avec ma fille, quoi.
Ouais. Ouais.
Mais une fois que j'y suis,
Mais t'acceptes, voilà,
voilà.
t'as réussi à surmonter.
Ouais. Après. Je sais pas si c'est dans l'ADN des parents de culpabiliser
Ouais,
ou
je
si on
pense.
n'en parle pas assez, j'en sais rien.
C'est assez partagé quand même comme
Ouais.
sentiment, donc
C'est pas simple, hein.
c'est pas simple.
Parce que t'as envie de leur montrer que les parents ont une vie et que c'est un bel exemple. Et en même temps, t'as envie d'être là H24
Ouais,
pour eux.
c'est ça.
Ce qui est pas possible et étouffant aussi.
Ouais, et pas forcément souhaitable, effectivement. Donc,
Exact. Ah, c'est dur.
ouais.
Tu vois, là, pour moi, l'équilibre est plus difficile à trouver que vie pro, vie perso.
Ouais.
Parce que dans l'équilibre avec ton enfant, est-ce que tu donnes trop? Est-ce que tu donnes pas assez?
Ouais.
Voilà, tu te poses des questions
C'est vrai.
qui sont existentielles.
Et par essence, effectivement,
Ah ouais, ils
hautement
sont.
existentiel, ouais. Est-ce que du coup, t'arrives à trouver du temps pour toi? Parce que, mais vraiment pour toi, quoi. Donc pas pour le travail.
Ouais, après, mais tu dois le savoir un peu, mais quand tu travailles à la maison, parce que
Ouais.
j'essaie de créer une entreprise, c'est difficile d'avoir la limite, tu vois.
Oui,
Bon,
bien
elle va
sûr.
à la crèche, donc j'ai des moments pour moi. Mais bon, je sais pas quand c'est la dernière fois que je suis sortie danser, boire un verre, voilà. Ça me manque, hein, je le
Ouais.
dis, aujourd'hui ça me manque. Il y a 6-7 mois, ça me manque, je t'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, ça
Ouais.
y est, je commence. Et pareil, tu vois, j'ai lu un truc et ça m'a marqué, que c'est souvent à partir du moment où l'enfant marche,
Ouais.
que, en tout cas, la maman commence à sentir, s'autoriser le droit d'avoir une vie à côté ou de revivre ce qu'elle pouvait vivre
Ouais.
avant, et de pas
C'est
oublier
vrai.
la femme qu'elle était avant.
Ouais.
Et c'est vrai que ça m'a un peu fait ce sentiment-là, tu vois. Et c'est pour ça que je ne suis pas enceinte du deuxième là. Et tu vois, on te dit, moi j'ai 2 ans d'écart avec ma sœur, donc ce serait maintenant, en gros.
Ouais.
Et je me dis, ben, putain, c'est dur de prendre la décision de refaire un deuxième enfant quand tu commences juste à retrouver un
Ouais, c'est
rythme.
vrai. C'est
C'est
vrai.
pas facile, tu
Avoir un
vois.
rythme de croisière, ouais,
Ouais,
c'est
le
sûr.
premier bébé, tu le fais, tu sais pas trop.
Ouais, c'est vrai.
T'es un peu. Ça va être magnifique, on verra, on essaye, on sait pas combien de temps ça va prendre, c'est pas ce que c'est, donc on n'a
Ouais.
pas une attente forte. Le deuxième, tu sais quand même.
Ouais,
Tu
c'est
sais que
vrai.
ça prend du temps, et surtout pour les femmes, notre corps, voilà, il faut être capable de dire, j'enchaîne.
Ouais.
Donc,
Non, c'est vrai, moi, ils auront 4 ans d'écart, tu vois.
Ouais, c'est
vrai
intéressant.
que. Mais finalement, ouais, c'est vrai que du coup, on a quand même eu le temps, comme tu dis. Un enfant de 4 ans, t'as quand même eu le temps de. Bah, voilà,
Toi, de te reconstruire.
De te reconstruire et de passer.
Et de dire,
d'accepter
okay,
les changements
ouais.
aussi. Voilà.
Parce que moi, là, je sais pas si t'as eu, mais bon, ça y est, tout le monde me dit, le deuxième. Bon, attendez, laissez-moi 2 secondes, elle a
Ouais,
16 ans.
laisse-moi
Ma
atterrir.
fille. Ouais, voilà, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, laissez-moi avoir la possession de mon corps, de revenir, de trouver mon équilibre dans ma vie. De tout, voilà, je me dis là, repartir pour un deuxième, c'est une vraie question,
C'est
c'est
une vraie question,
compliqué. Ouais.
c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en fait, tu disais que tu avais beaucoup lu. Alors, enfin, je sais pas si tu vas pouvoir tout nous citer, mais en tout cas, je prendrai des notes. Est-ce qu'il y a des livres, donc dans ceux que tu as lus, qui t'ont particulièrement marqué, que tu recommandes en fait de
Ouais.
lire pour les mamans qui nous écoutent?
Ben, moi, je pense qu'au lieu de te donner un kit de nettoyage de ton bébé, on devrait te donner 2 livres qui sont essentiels
Ouais.
à la parentalité. Mais il y a un livre qui est génial de Catherine Guéguen qui s'appelle Vivre heureux avec son enfant,
D'accord.
qui est une pédiatre renommée en France,
OK.
qui est exceptionnelle et qui ne donne que des cas concrets qu'elle a eus dans son cabinet,
OK.
basé sur les neurosciences, donc ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau de l'enfant et. Parce qu'il y a beaucoup de sceptiques par rapport à ça, je le sais. Mais quand la science dit des choses, c'est beaucoup plus facile
Oui.
d'entendre. Voilà. Et du coup, il est très bien fait parce que c'est très bien vulgarisé, c'est pas compliqué. C'est le premier livre que j'ai lu en rentrant de la maternité et
OK.
ça m'a calé pour le reste du. C'était parfait. C'était vraiment.
Ça commence en fait dès les nourrissons, en fait.
Oui,
Enfin, ça
oui.
s'applique.
Et exactement. Ça s'applique jusqu'à très tard, hein, mais je veux dire, c'est vraiment. Il y a une partie sur les nourrissons et sur le cerveau, comment marche le cerveau d'un bébé. Enfin, moi, j'ai appris c'est génial. En gros, ils n'ont pas de. Pour gérer des émotions, on a le cerveau archaïque. Et on a. Je fais très simple, mais on a le cortex frontal qui est la raison, donc ce qu'est l'adulte a. Sauf que. Un nourrisson n'a pas ce cortex frontal. Il ne peut pas gérer une émotion, il ne peut pas se raisonner. S'il pleure, il ne fait pas un caprice. Les gens qui te disent, ouais, mais quand je le prends dans les bras, il arrête. Oui, parce qu'il est apaisé et que
Ouais, ça
c'était
le
la bonne
rassure.
solution qu'il fallait faire. Donc ça, ce livre, il t'explique bien le
Tout ça.
fonctionnement. Et le deuxième, c'est Au cœur des émotions d'Isabelle Filloza,
D'accord.
donc une grande psychothérapeute qui est là. La figure de ça, de la parentalité, est souvent dans les maternelles, est souvent interviewée. Et c'est un bijou, ce livre.
Ouais.
C'est un vrai bijou. Franchement, et moi, il m'a beaucoup apporté à moi en tant qu'adulte.
C'est au cœur des émotions adultes et enfants,
Au
en
cœur des
fait.
émotions de l'enfant.
De l'enfant,
Mais sauf
d'accord.
que
Ouais.
un être adulte est construit face à ses émotions
Bien
de
sûr, bien
l'enfant.
sûr.
Et en fait,
Je te.
ça te fait vraiment relativiser des choses, comprendre des choses, tes réactions. Voilà, les parents sont souvent démunis face à leur enfant parce que ça leur renvoie à leurs propres émotions.
Ouais.
Tu peux pas savoir ce qu'un enfant va te faire tant que ça t'a pas déclenché en toi.
C'est vrai.
Voilà, les gens supportent pas les cris, supportent pas les pleurs parce qu'ils ont jamais eu le droit de pleurer, peut-être. J'en sais rien, tu vois.
Oui, bien sûr, ça,
Mais
c'est beaucoup d'introspection, hein, c'est
exactement. Mais du
clair.
coup, ça t'apprend à réfléchir là-dessus et à te poser, à avoir plus de bienveillance envers toi et surtout envers ton enfant, parce que en gros, ton enfant, il est juste pas capable. Voilà, si tu pars de ce
De les gérer,
constat-là,
quoi,
il
ouais.
sait pas gérer une émotion, il a besoin de toi. Basta. Il fait pas un caprice, il a une colère, il a une émotion. Voilà. Et je te jure que ça te change la vie dans la pression que tu peux te mettre face à un enfant qui crie, tu comprends pas. Tu te dis juste, bah, il sait pas faire, je vais l'aider, je suis là, je suis tranquille, et ça ne me fait rien. Je sais que c'est facile à dire, mais ça marche.
Mais oui, mais du coup, donc ces deux
Ouais,
livres-là
ces deux
t'ont
livres, c'est vraiment
aidé.
c'est des bijoux.
D'accord.
Il y en a. Après, si tu veux aller plus loin, des enfants plus grands, Écouter pour parler et parler pour écouter aux enfants
Ok.
de Faber et Maslisch. Donc, c'est
Ok.
des ateliers que je suis aujourd'hui. C'est très pragmatique, c'est très concret. C'est super. Pour
D'accord.
les gens qui ont des enfants plus grands, pour comprendre les situations de conflit au quotidien, c'est top.
Cool.
Et puis
Ouais.
après, il y a les livres sur Montessori, Apprends-moi à faire tout seul de Charlotte Poussin.
Ok.
C'est des bonnes astuces. C'est intéressant.
Super. Bah écoute, je mettrai en description de
Ouais.
l'épisode tous ces liens. Bah écoute, merci beaucoup Clémentine, c'était hyper riche pour cet échange.
Merci.
Et puis donc si on veut te suivre, donc c'est sur Instagram, t'as
Sur
un compte,
Instagram,
donc
ouais.
c'est Clem Sarah,
C'est
ouais.
ça, exactement.
Et puis bien sûr sur Bean, voilà. Et puis surtout tu nous tiens au courant de tes
Bah, mon
prochains
projet
projets.
futur, ça sera autour de tout ça, de la maternité, du sport, de. Voilà. C'est vraiment un truc passionnant et je trouve qu'on n'a pas assez d'outils, on n'est pas assez prête pour ça, donc
Super.
j'ai envie d'aider.
Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on relaiera
Avec plaisir.
l'actualité. Voilà, merci beaucoup
Merci à
Clémentine.
toi.
Salut.
Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.